Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Avec DH.
Okay?
Jordan et Mel Trudel.
I don't like it at all.
Radio X. Actualité scientifique.
La microbiologie, la chimie, la science en général.
Avec Marc Hamilton, microbiologiste.
On dirait que c'est l'actualité qui se colle à Marc Hamilton. Ah oui. Et là, on dit, l'actualité, il dit, Marc Hamilton s'en va faire une chronique à Radio X. On va y sortir une petite croisière à quelque part sur la planète où ça va pas pantoute. Il y a trois décès. Il y a un nouveau, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. De ça, le hantavirus. Oui. Monsieur Marc, bienvenue à l'antenne.
Merci, c'était un grand plaisir. La dernière fois, on était plein d'actualité. On parlait de la radioactivité,
oui.
C'était l'Iran et tout ça. Puis,
ça, l'actualité, ça match avec tes présences.
Ça arrive, le timing. On dirait que le lundi, on ramasse tout le tout-ski la fin de semaine, puis bang, le lundi, on sort l'actualité.
Mais la fois, c'est bon du tout-ski. Moi, je fouille dans le frigidaire.
Ouais, c'est vrai que c'est bon. Il faut juste faire attention aux dates. Des fois, quand le Touski fait 4 semaines qu'il est là, faut faire attention. Là.
Quand le Touski bouge dans le frigidaire, c'est peut-être mieux.
Quand il change d'étagère lui-même, là, c'est peut-être le temps que faire d'autres choses avec.
Bon, hey, parle-nous de ça, le hantavirus. C'est quoi, un petit bateau d'à peu près 170 personnes? Ouais. Là, c'est quoi le bon terme? Il n'est pas accosté? Il est accosté?
Il est amarré.
Amarré.
Un peu amarré dans la mer. Mais l'histoire, c'est qu'il y a environ pas une semaine de ça, c'était un bateau qui partait de l'Argentine avec 170 personnes à part les personnels de bord. Et durant la croisière, il y a des gens qui se sont commencé à être malades. Donc, genre viral, une fièvre, une fatigue, une douleur musculaire, comme une grippe. Mais ça s'est rempiré, de sorte que ça a venu à donner des essoufflements soudains, de l'eau au niveau des poumons et une insuffisance respiratoire aiguë qui a amené à des
décès. Là, tu ne me dis pas que ça part de la Chine. Là. Tu m'as dit tantôt que c'était... Non, c'est pas le coronavirus qui
non,
a rien.
Non, c'est pas un animal là, qui a amené le coronavirus. Il faut penser que l'hantavirus, c'est un virus qui existe depuis plusieurs années. C'est un virus qu'on appelle zoonotique. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un virus qui vient...
Il n'y a pas des rats?
Des rongeurs.
C'est pour ça qu'on dit zoonotique. Zoo veut dire animal. Donc, vient d'origine animale. Donc, c'est un virus qui pour qui l'animal, les rats, toute forme de rongeurs, entre autres des souris, vivent très bien avec. Ça leur donne absolument aucun symptôme. Par contre, dans leur excrément, dans leurs urines, dans leur salive, il va excréter ce virus-là que lorsque l'être humain rentre en contact avec ça, sous forme de poussière, parce que bien souvent... L'urine, les excréments vont se transformer en poussière. On va brasser ou on va faire le ménage. La poussière sera dans les airs. On va respirer ça. Et on va attraper ça comme une grippe en tant que telle. Et donc, ça rentre dans les poumons. Et là, le virus, veut pas, ça le réveille. Puis là, quelques jours, des fois même quelques semaines après, on développe la maladie. Et d'ordre général, quand on a une zoonose ou un virus d'origine zoonotique, il n'y a pas de transmission d'humain à humain. D'ordre général, on l'attrape. On a la maladie. Il n'y a pas de vaccin, surtout pour l'antavirus qu'on parle là. Donc, on ne peut pas se vacciner contre les zoonoses encore. Mais on attrape la maladie et on vit avec. C'est notre système immunitaire. Comme une grippe qu'on attrape. Puis, on souhaite que le virus...
Peux-tu avoir... C'est pas des séquelles après ça?
Vu que c'est un virus, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de séquelles. Il faut juste que tu penses au travers. Donc, pour souvent que les personnes qui ont des insuffisances pulmonaires vont créer vraiment une espèce d'eau du liquide d'un poumon puis créer une insuffisance pulmonaire, comme est arrivé, c'est des personnes de 69, 70 ans qui sont décédées. Là, le cas critique, qu'est-ce qui inquiète la communauté scientifique par rapport à ce croisacier-là, bateau de croisière, c'est qu'il semble y avoir une contamination entre humains. Chose qui, d'ordre général, quand on attrape quelque chose d'un animal, ça ne se transmet pas d'humain à humain. Il y a un virus dans les hantavirus qui s'appelle le virus Andes. Le virus Andes, c'est un virus d'une zoonotique dans la famille des hantavirus qui a réussi à se transmettre d'humain à humain. C'est un virus qui vient de l'Argentine. Curieusement, là où est-ce que le bateau est parti?
Ça, c'est parce que le virus, il évolue, il se métamorphose.
Exactement.
Pourquoi, là, ça passe puis ça ne passait pas avant?
C'est parce que le virus, en tant que tel... Je veux juste vous donner une petite base. À quoi ça sert un virus sur la planète? Peu importe l'animal, peu importe l'espèce, un arbre, n'importe quoi. À quoi ça sert, principalement?
Ça va être pour freiner quelque chose, parce qu'il faut qu'on s'auto-immune, je ne sais pas trop, là.
C'est le contrôle des populations. Donc, le virus, lui, quand on l'attrape, il va tout faire pour tuer son hôte. Donc, lui, des fois, tu vas avoir un virus qui, lui, va dire, ben j'ai été capable de me muter. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. Comme la rougeole, ça arrivera jamais de se muter pour qu'il devienne un autre virus, parce que c'est un virus très stable, mais je veux pas mélanger les choses. Mais dans ce cas-ci, de partir d'un virus qui appartient à un animal, qu'il l'attrape de l'humain, que là, le virus en dedans de l'humain réussisse à se muter pour qu'il puisse infecter notre humain, c'est des choses qui arrivent, mais c'est très rare. Mais dans ce cas-ci, c'est arrivé. Le virus en dedans, ça en est un exemple. De sorte que si j'attrape cette maladie-là, je vais pouvoir, au même titre qu'une grippe, lorsque j'éternue, lorsque mes sécrétions, contaminer une personne qui va avoir aussi l'antivirus avec les mêmes symptômes. Et là, dans ce bateau-là, c'est ça qui inquiète. Parce que présentement, il est amarré à Cap-Vert. C'est pas trop loin d'Afrique du Sud, là, sud ou sud-est.
C'est-tu trois personnes, Marc, sur trois qui sont décédées ou c'est, je sais pas moi, 300 personnes qui ont eu le virus?
C'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Okay. Et là, présentement, c'est sûr qu'ils sont pas dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de communautés scientifiques qui peuvent les aider. Ils sont sur une petite île perdue dans l'océan Atlantique. Et le problème, c'est que présentement, ils veulent identifier si tu as un virus Andes ou un virus qui ne se transmet pas d'humain à humain. S'ils découvrent par des tests sérologiques, des prises de sang, que la personne qui est décédée ou porteuse de la maladie ait un virus qui est Andes, là, le bateau va devenir beaucoup plus en quarantaine parce que tout le monde a été ou pourra être en contact avec une personne qui l'a et développer la maladie. Là, le bateau, présentement, est amarré pour une période indéterminée, le temps de faire le screening, de voir qui est porteur de la maladie et quelle souche de virus ils ont. Et à ce moment-là, comment traiter ces gens-là? Bien, on va traiter ça comme une personne qui a une grippe grave en tant que telle, potentiellement contagieuse. Pas très, très contagieuse, mais potentiellement contagieuse. Et là, c'est là qu'on va voir l'avenir. Bien, présentement, au moment où on se parle, c'est à l'étude, ces dossiers-là. Mais le fait divers, c'est que c'est surtout que quand on parle d'antivirus, c'est quelque chose qui est à peu près inexistant au Canada. Il y a eu quelques cas dans les années, je dirais qu'environ 140 cas depuis les années 2020. Bien, c'est très rare. C'est surtout dans l'Ouest, par des souris, que l'antivirus peut avoir. Donc, l'être humain rentre en contact avec une souris et elle le transmet. Mais encore là, 220 personnes, c'est rien qui attrape une maladie. C'est juste que le problème, c'est que ce virus-là, peu importe le nombre de personnes qui l'attrapent, le taux de mortalité est très élevé. On parle entre 30 et 40 de mortalité pour un virus. Donc, c'est sûr que les gens qui l'attrapent, s'il y a un moindre problématique au niveau des poumons, un système immunitaire affecté, ben, oups, là, ça peut aggraver.
Il n'y a pas d'antidote.
Il n'y a pas de vaccin. Donc, on l'attrape. On souhaite que notre système immunitaire, notre rate, puisse passer au travers. Et après quelques jours, une grosse grippe grave, ben, on passe au travers. Présentement, c'est ce qu'il y en est par rapport à un antivirus.
Mais de ce que tu vois présentement, c'est en train de se transmettre dans le bateau. Je veux dire, c'est un virus qui est en train de se développer.
C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce que, du moins, des nouvelles qu'on a reçues, parce que c'est une nouvelle qui est apparue aujourd'hui. On sait qu'il y a trois personnes qui sont décédées, mais on ne sait pas si le virus a atteint d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que le virus est prêt, pour ça que le bateau est amarré. Et attendre voir, tu sais, veut pas la période d'incubation du virus. Puis ce virus-là, il y a une période d'incubation qui est lente. C'est pas comme, exemple, dans le temps de la COVID, on donnait un bec à quelqu'un, puis deux jours après, on avait la maladie.
T'as le micron.
C'est ça, qui était rapide d'avoir les symptômes. Donc, c'est un virus qui peut aller jusqu'à trois semaines avant qu'on attrape la maladie. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils stressent parce qu'ils...
Tu l'as en toi, mais tu vas la développer en trois semaines.
Et le virus rentre en toi, mais le temps qu'il se développe, le temps qu'il passe par-dessus ta barrière immunitaire...
Non, on va juste faire une quarantaine.
Qui est là, bien, il vient détectable. Et c'est là que la question que je ne sais pas, c'est quel est le temps entre tu rentres en contact avec la maladie, le virus, qui s'installe en dedans de toi, combien de temps ça prend pour que la prise de sang, les anticorps que tu développes, fait en sorte que tu es porteur, même si tu n'as aucun symptôme? Ça, je ne le sais pas. Mais il reste que c'est ça qui est à l'étude présentement, de dire, probablement, que tous les gens de le bateau ont eu des prises de sang pour voir si est-ce que ce virus-là s'est propagé, pour identifier d'une méthode sérologique si ce virus-là est d'origine Andes, qui se propage du main humain, ou un antivirus quelconque qui est très limitrophe seulement que de l'animal à l'être humain. Si ce serait le cas, de l'animal à l'être humain, ce serait une excellente nouvelle. Ça veut dire que le virus a attaqué trois personnes. Ça veut dire que ces trois personnes-là, préalablement, ont probablement été dans un endroit qui était contaminé. par des excréments de souris, des excréments de rats, que ça s'est mélangé à la poussière, puis ils ont respiré ça, ils ont emmené ça dans le bateau, puis ils ont développé la maladie dans le bateau, dans le croisière, okay. Parce que le croisière, c'est jamais rapide en tant que tel, donc ils ont attrapé. C'est ce qu'on ne sait pas encore.
Mais là, la quarantaine, c'est parce que, mettons qu'on regarde le virus de l'herpès, là, ça oui. se transmet d'humain en humain, mais ça peut prendre des mois, voire des années avant qu'il...
Mais c'est plus rapide, là, ce cas-ci.
Là, c'est sûr que c'est plus rapide.
Oui, oui. Trois semaines, tu dis, hein, c'est ça?
Maximum, ben, à partir de trois semaines, si tu ne l'as pas, il y a des bonnes chances.
Ah, OK. On n'est pas dans une zone inconnue ou... OK.
Exact. Puis okay, le but, c'est de le dépister avant que tu aies des symptômes. Ça, on peut le
faire. Pour t'assurer à 100% que tous ceux et celles qui étaient qui sont sur le bateau ne transmettent pas ça, c'est combien de jours? Sans avoir d'autres contacts humains. Ben, c'est 60 jours, puis là, tu te dis, bon, écoute, il n'y a plus de cas, ça fait 60 jours, là, on peut repartir.
Moi, je pense qu'il faut attendre que la personne, du moment... Mais il y a deux possibilités. C'est sûr que s'ils ont accès à des outils de dépistage, de prise de sang, ça peut être beaucoup plus rapide. S'ils n'en ont pas, puis on y va juste par des symptômes, ça peut aller jusqu'à trois semaines. Donc, du jour 1, autant que tel, du moment qu'ils sont partis de l'Argentine... On va attendre trois semaines après, je pense. Je pense qu'on va être plus vite que ça. Là. Mais oui, ça peut être assez long pour créer une quarantaine prolongée. Mais moi, je suis pas mal certain que les outils technologiques de dépistage par PCR, bon, la sérologie, etc., on va être en mesure de voir de quelle souche, de quel sérotype est ce type de virus-là qui est affecté et voir après comment est-ce qu'on va pouvoir déployer un plan de comment est-ce qu'on traite ces gens-là, est-ce qu'on les met en isolation ou pas.
On n'a pas d'infos sur l'âge de la troisième personne qui est décédée?
Non, ça, on ne le sait pas. On sait
parce
qu'elle est...
69-70 ans pour les deux autres, là.
Ça semble probablement une personne âgée aussi.
OK, ouais. On est là-dedans.
Exact, ouais. Okay.
On va faire la pause et la partie 2 oui. du spectacle exact. De M. Hamilton s'en vient.
Le retour méfiez-vous de Radio X.
C'est un conseil d'amis que je vous donne.
Avec D.H., Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Il met ses écouteurs. Vous avez des questions à Marc, toujours le 418-670-9098. Juste avant qu'on parle de transpiration, il y a un auditeur qui est curieux. Ils font quoi des corps quand les trois personnes décédées? Puis jusqu'à quand le corps demeure potentiellement là, dangereux?
En général, le virus, quand il n'y a plus de circulation sanguine, généralement, il ne restera pas longtemps. C'est sûr que quand on parle d'une bactérie, c'est différent d'un virus. Quelqu'un qui avait la peste, quelqu'un qui mourait d'une bactérie qui... comme la peste, une bactérie, c'est pas un virus. Donc, la bactérie va rester longtemps dans le corps, qui fait que tu vas falloir quasiment que tu incinères la personne pour éviter qu'elle te contamine. Et quand c'est un virus, bien souvent, quand le virus a fini par tuer son hôte, bien souvent, le virus ne restera pas longtemps. Il y a des virus... Là,
Il a fait sa job.
Il va mourir en même temps que son hôte. Donc, il va être moins récalcitrant. Donc, en général, un corps mort d'un virus va être moins contagieux qu'un corps mort d'une bactérie. Je pense à la peste, parce que c'est elle qui me vient à l'idée. Là. Tu voyais, dans l'ancien temps, les gens qui avaient la peste, et il fallait qu'ils passent au feu. Les gens avaient des scaphandres. Parce que ça reste contaminant. Donc, la bactérie reste vivante tant que la personne a de quoi biodégrader. Mais le virus, lui... Si le sang ne circule plus, s'il est stagnant, bien, il a atteint son niveau de se multiplier lui-même. Les autres, en tant que tels, les récepteurs, où est-ce que le virus va s'attaquer, bien, s'il n'y a plus de circulation sanguine, bien, il va mourir en même temps que son autre.
Parce qu'il se nourrit de sang, de ce qu'on retrouve dans la composition du sang, il se nourrit de quoi, le virus? Là?
Bien, le virus, lui, il y a des récepteurs. Donc, le virus, lui, à quelque part, qui fait que c'est compatible. Un exemple. Pourquoi que je n'attrape pas la grippe de mon chien? Pourquoi que je n'attrape pas la grippe d'une espèce d'animal? C'est parce que les virus, il y a des virus humains, puis il y a des virus de chiens. Puis à ce moment-là, dans les récepteurs, prenez juste comme exemple la grippe. Bon, on va le respirer. Et dans les poumons, il y a des récepteurs que le virus va reconnaître. Il va s'attacher. Et parce qu'il va s'attacher sur le récepteur, boum, il va créer une réaction immunitaire.
C'est pour ça qu'on voit souvent, quand on parle de virus, une grosse boule avec comme des...
Avec des récepteurs au bout, tu ne peux pas se rappeler. Puis ces récepteurs-là, là... C'est ça qui va s'accrocher à une cellule. Puis le virus, en tant que tel, il va s'attacher à une cellule, il va percer la cellule, puis il va rentrer dans la cellule pour pouvoir faire des petits, et pouf, il va contaminer la cellule pour que la cellule puisse faire des centaines de virus. Et le but, c'est que tant qu'il y a des cellules vivantes, bien, il va continuer à se propager. Quand tu meurs, tes cellules meurent. Donc, le virus n'a plus de cellules vivantes où est-ce qu'il peut contaminer et continuer à se multiplier. Parce que tu n'en produis plus de cellules. Fait que ton virus meurt en même temps que tes cellules ont fini de se multiplier. Tandis que la bactérie, elle, son phénomène d'attaquer un être humain n'est pas le même. La bactérie, elle, elle va s'attaquer et elle va créer des petits. Donc, elle va rentrer dans le sang, va se nourrir, exemple, de ton sang, parce que le sang, c'est riche en fer, c'est riche en sucre. Et elle va manger, elle va se nourrir, elle va créer de l'infection, d'inflammation. Et l'infection va tellement être forte que là, tu vas mourir d'une septicémie. Donc, je dirais, le mécanisme d'infection est complètement différent entre un virus et une bactérie.
Transpiration.
Yes.
Tu sais, parfois, tu vas être dans une chambre d'hockey, puis ton voisin, il sent l'iode, puis à côté, il a joué autant, il a transpiré autant, mais il sent pratiquement rien. Est-ce que ça, c'est... Si tu réalises ce que je dis là, ça se peut-tu concrètement?
Ça, ouais? Ça arrive très souvent. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'une personne, d'un individu à l'autre, va sentir. Bon, mettons que la première personne, la première affaire qu'on pense quand quelqu'un sent, c'est « elle se lave pas ». C'est la première affaire qu'on pense, « il crime, il s'est pas mis de déodorant matin ». Mais il y a des gens pour qui se mettent du déodorant, puis une heure après, ça sent encore. Puis ils savent pas quoi faire. Puis ils disent, j'ai une bonne hygiène de vie, je me lave, puis je me passe, puis crime, je sens encore. Et là, c'est là qu'on dit, à personne égale qui se lave égale, il y en a toujours une qui finit par sentir plus vite que l'autre. Donc, quels sont les facteurs physiques qui peuvent faire la différence? La première affaire, c'est l'alimentation. Il y a des aliments qu'on mange qui vont faire que via notre digestion, parce qu'il faut penser que quand on mange, les métabolites de ce qu'on mange vont dans le sang. Le foie va les digérer, ces métabolites-là, et va les transmettre l'odeur de cet aliment-là au niveau de la sueur. Donc, les aliments les plus susceptibles à créer des odeurs quand on en mange, là, on en mange pas rien qu'une fois de temps en temps, c'est des bons amateurs, l'ail, l'oignon, les grands buveurs d'alcool, les brocolis, le chou-fleur, les gens qui sont attachés à beaucoup à des épices, des épices odoriférantes, là, des épices fortes. Donc, le foie va le métaboliser et l'odeur va se sortir de notre transpiration.
Si tu manges des ailes de poulet vraiment épicées, ça peut avoir un impact.
Ça va avoir un impact parce que ton foie va le métaboliser et le métabolite va faire en sorte que ta transpiration, ces journées-là, va être plus odoriférante quand tu vas faire un effort physique ou quoi que ce soit qu'en temps normal.
Puis en plus, tu coules du nez quand tu manges.
En plus,
ça peut faire ça. C'est vrai, hein, quand c'est épicé, on coule du nez.
Il y a aussi, il faut penser une chose, il y a des aliments qui... Il faut penser aussi, il y a l'odeur qui est donnée directement par la sueur et il y a aussi l'odeur occasionnée par les bactéries qu'on a à la surface de notre peau, qui est un autre facteur aussi. On sait que, juste pour vous donner une idée, comment vous pensez que vous avez de bactéries, exemple, juste un exemple, là, dans le fond de votre main, donc vous n'avez pas lavé les mains, là, vous prenez gros comme à peu près 25 cents, comment de bactéries pourraient vivre là?
Ah, 100 000.
100 000. Plus.
Une dizaine de mille. Dès qu'on touche à une poignée, là.
Ah, des millions.
C'est
100
000? Entre 100 000 et 1 million, là, oh. C'est des chiffres qui sont...
Réalistes.
Mais ce sont des bactéries qui sont souvent insignifiantes. Des bactéries qu'on retrouve naturellement sur notre peau. Une peau stérile, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'une peau qui n'a aucune bactérie, à moins que tu aies passé de l'alcool, là, bien comme il faut, là, puis là, tu vas dire, OK, pendant 5-10 minutes, là, j'ai un écran antibactérien. Mais ta peau, elle, est bourrée de bactéries. Fait que là, c'est sûr que cette bactérie-là, si tu transpires, si tu as les mains sales ou si tu te laves pas, ces bactéries-là, eux autres, vont se nourrir de ta transpiration, vont se nourrir de tes déchets que tu transpires par la peau. Et ces bactéries-là vont créer des odeurs aussi. Donc, la bactérie, elle va finir par fermenter ce que tu manges, ben, ce que tu as au niveau des liquides.
Ça, tu vas plus un méchant
tête. Et ça va sentir aussi. Donc, tu as le phénomène de l'alimentation. Tu as le phénomène où est-ce que tu as des bactéries beaucoup en grand nombre et qui aussi, certains aliments vont baisser le pH de ta transpiration qui va accentuer la prolifération bactérienne, donc aider les bactéries à encore produire plus vite, à se biodégrader ce que vous avez en dessous des bras, par exemple, plus rapidement. Et là, ça va accentuer aussi l'odeur. Donc ça, c'est le deuxième effet associé à l'odeur. Et le dernier, il reste toujours le phénomène de la génétique. Il y a des génétiques de peau qui, pour qui... une génétique qui fait que moi, j'ai une peau...
De peau ou de couleur de peau?
De peau.
De peau.
Donc, peu importe la couleur, il y a des gens qui, pour qui, peu importe le grain de peau, vont avoir une odeur corporelle naturelle plus forte qu'une autre. Et ça, on ne peut rien y faire. Ça veut dire que j'ai hérité d'un gène qui va me faire en sorte que ma peau va avoir une odeur qui est tout le temps associée à... oh, je sais c'est qui, il sent comme ça. Ou j'ai une odeur qui va être plus sûre ou plus sucrée. Ou... Donc, c'est bien souvent ton grain de peau, ou du moins ta peau naturelle, peu importe la couleur, peut faire en sorte que tu as une odeur de peau qui est différente d'un autre individu.
Le liquide de la transpiration,
oui.
C'est-tu des glandes?
C'est des glandes sudoripares.
Sudoripares.
Il faut penser que nous autres, il y a très peu d'animaux sur la planète qui transpirent comme nous. Je dirais, prenez juste votre chien, il va transpirer beaucoup, juste des pattes. Il va venir des pattes. Mais votre chien, lui, comment qu'il transpirera pas? Vous verrez jamais un chien venir le pot tout trempe. Comme nous autres, quand on transpire, on a chaud, on vient le dos tout trempe. Donc, un chien, par exemple, va allaiter. Donc, pour se refroidir, il va toujours sortir la langue pour se allaiter. Donc, c'est pour ça qu'un chien va être beaucoup plus à risque d'avoir une insolation, d'être dans un endroit qui fait très chaud, surtout s'il n'y a pas d'eau. Il va se déshydrater beaucoup plus vite qu'un être humain. Le but de transpirer est de régulariser la température de votre peau, fait que de votre corps. Fait que quand il fait très chaud, pourquoi que le corps va sortir de l'eau? Pour se refroidir, d'avoir un effet de refroidir. Donc, quand il fait chaud, on va transpirer. C'est ce qui nous permet de dire, quand je suis en grande activité physique, à ce moment-là, bien, je vais transpirer pour empêcher que la température de mon corps vienne à 40 degrés. Je vais le refroidir en transpirant. Et c'est cette transpiration-là qui, pour certains, va être plus odoriférante que d'autres.
Puis en moyenne, par jour, on peut savoir combien on va perdre, mettons, on va suer combien de millilitres par jour? Ça peut, tu sais, évidemment, quand tu fais du sport physique et tout ça, c'est
donnez juste un exemple. Affaire. On avait déjà fait une entrevue il y a quelques mois là-dessus, juste en dormant. Combien de litres par année vous perdez dans votre lit? OK?
Bon, oui, parce que tu te couches le soir, puis tu te réveilles le lendemain, puis c'est pas le même poids, là.
Bien, oui.
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais
ben, c'est sûr
tu gères les éléments ou
ben,
quoi, les aliments.
Il
ou...
ben, y a la digestion, mais aussi tes reins vont filtrer plus. C'est pour ça que le lendemain matin, des fois, tu te réveilles, tu as une grosse envie de pipi, on s'entend.
Ouais.
Ben, bien, souvent, c'est les reins, durant la nuit, vont filtrer ton sang, enlever l'excédent d'eau, tu vas être moins enflé. Peut-être...
Mais je dis l'eau et tu ne l'as pas évacué encore. Pourquoi on pèse tout le temps moins on est
peut
moins
perdre
pesant?
Jusqu'à 600 millilitres. D'eau en dormant sur 8 heures. C'est beaucoup.
Hey boy.
Ce qui fait que pour ça, pourquoi je disais que des fois, on se lève le matin puis nos draps sont trempés, ou nos draps sont crèmes, ouais. Sont humides. Bien, des fois, on a eu une nuit que c'est pas nécessairement parce qu'il fait chaud à l'intérieur, pire quand il fait chaud, mais on perd beaucoup d'eau quand même juste en dormant notre transpiration. D'où là l'importance de nettoyer les draps. Parce que cette eau-là, jumelé avec la peau qu'on perd, ben, ça fait un melting pot qui active encore les bactéries, les moisissures, et encore là, ben, ça va créer des odeurs et tout le tralala. Là. Donc, ça fait partie de l'équation. Où est-ce qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, la vie, c'est principalement la source minimale, c'est les bactéries.
Il y a des gens qui se font injecter du Botox pour empêcher la transpiration, mais j'imagine que c'est pas très bon pour la santé de faire ça.
Mais le Botox, hein, c'est un agent qui est paralysant en tant que tel. Donc, probablement paralyser les muscles, qui fait qu'ils vont probablement moins se contracter à certains endroits, qui fait que l'eau va probablement plus difficilement sortir de la peau. Mm-hmm.
C'est-tu les muscles? C'est-tu les glandes qui paralysent avec ça? Ou...
Ça, je le sais.
On le sait pas, hein? C'est
on
une bonne
pas
question.
Dans le
hein?
détail, je peux pas dire si ouais. c'est les muscles ou
temporairement
les
sillons nerveux responsables de la surproduction de la sueur.
Probablement, mais il reste qu'on peut diminuer. Mais quelque chose qu'il faut faire attention, c'est... Les gens qui vont mettre des déodorants versus des antisudorifiques.
Oui. Bon,
moi, les antisudorifiques, j'ai de la misère avec ça parce que c'est quand même des particules d'aluminium qu'on va s'étendre au niveau pour boucher les glandes. Et en bouchant les glandes, bien, on empêche l'eau de sortir des glandes. Donc, c'est...
Ça serait associé à des risques de cancer, il me semble.
En tout cas, il y a certaines études qui disent qu'une utilisation prolongée justement des produits d'aluminium fait en sorte que à la longue, peut créer des inflammations. Puis oui, il y a des gens qui disent que ça peut créer des cancers à la longue parce que l'aluminium rentre trop souvent en contact avec notre organisme, qui fait qu'on peut avoir des résidus qui vont créer éventuellement des problèmes hormonaux, des problèmes systémiques.
À chaque fois que M. Hamilton va venir en studio, le soir, on se couche un petit peu moins inculte.
Toujours intéressant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut, bye.
Ce segment d'émission est présenté par Coin Réno Déco. La place pour rénover et décorer à petit prix. Plancher de vinyle, mur de douche, déco, tout y est. Qualité, service et prix imbattable. CoinRénoDéco.com.
Le retour de Radio X. Radio X.